Salut, bon matin! Bienvenue sur les ondes de Boulevard 101, précisément à 10h. Les gars du matin sont sur la coche, on n'est jamais en retard, fait qu'on les salue, un gros merci. Actuellement, sur Québec, c'est une température ressentie de quoi? Autour de moins 17 degrés? Ah non, on nous dit, avec le refroidissement éolien, c'est moins 30 et c'est moins 17 actuellement. Donc, si vous travaillez à l'extérieur, on a une petite pensée pour vous autres aujourd'hui. Faible neige intermittente et poudrerie par endroit. Je ne sais pas si c'est encore le cas dans votre secteur, dans le secteur Le Bourgneuf, le vent semble s'être estompé. Pour ce qui est de ce soir, encore là, 2 cm, mais il semble qu'on va être gâté pour ce qui est de la neige dans les derniers jours. 2 cm pour ce soir, ça finit plus. Et demain, mercredi, ce sera généralement nuageux, avec un 40% de probabilité d'averse aussi en matinée, avec un maximum de moins 6 degrés. Salutations, mon nom c'est Anne Marceau, vous êtes dans l'Open Mic, première partie de Marceau le midi, et j'ai l'honneur. Le très grand honneur de le passer en compagnie d'Audrey Pinchot. Salut.
Ouais, tata, l'honneur.
J'ai-tu quelque chose à te demander, moi?
Ben, c'est ça, je suis en train de me demander, là. Bon mardi, Anne. Bon mardi, les auditeurs.
C'est un show qui va être le fun aujourd'hui, puisqu'on va en apprendre plus sur une profession dont on entend très peu parler, la profession de scaphandrier. Donc, on va jaser avec un gars qui fait ça de sa vie. C'est un gars qui travaille dans des cales de bateau, travaille dans le fond de l'eau.
Ouais.
Je sais pas s'il fait de la soudure. Il va nous expliquer qu'est-ce qu'il fait exactement. Mais c'est un scaphandrier. Son nom, c'est Sean O'Neill. Et il fait ce métier-là depuis plus de 20 ans. Puis si ça vous tente de lui poser des questions, 418-971-1021. 418-971-1021. Moi, j'étais un amateur de plongée sous-marine. J'adore faire ça. Est-ce qu'un jour, je ferai ça de façon professionnelle? Je le sais pas. J'ai l'impression d'être un peu trop vieux pour ça. Mais scaphandrier, c'est tout un travail.
C'est capoté parce que lui avait vraiment pas étudié à la base pour faire ça. Puis à un moment donné, il est tombé coloc avec un gars qui faisait ça. Puis l'intérêt a grandi, il a décidé d'aller prendre ses cours. Puis là, ben aujourd'hui, il fait ça. Puis je veux dire, il a habité les 5 premières années là, en Inde, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Chine, en Thaïlande. Il était partout. Il a fait à peu près 70 contrats de 6 à 10 semaines dans 17 pays au cours de sa carrière. Lui travaille sur les plateformes pétrolières. Là, mais j'ai tellement de questions, Yann. Là. Hier, il fallait que je reste à la station un peu plus tard après le show parce que...
Ouais, t'es resté tard. Tu faisais les téléphones hier quand je suis parti. T'es au quoi?
Ouais.
Autour de 7h,
maintenant? Oui, bien, je suis partie d'ici. Il était peut-être 6h50 à peu près,
ouais,
effectivement. Et j'avais un cours à 7h de yoga show que je suis restée travailler. Puis là, on dirait que je lisais sur son parcours puis sur le métier de scaphandrier. Puis plus je lisais, plus j'avais des questions, puis honnêtement, j'ai l'impression qu'on va passer probablement une bonne partie du show avec lui, puis il est super énervé de venir partager cette entrevue-là avec nous, parce que lui, il est passionné de chez passionné. Là.
Quand t'as atterri en avion dans ton pays où t'es allé dernièrement, là,
oui, en République.
T'as-tu stressé à l'atterrissage?
Ben moi, j'ai toujours un petit... Quand je nous sens descendre, j'ai toujours des petits papillons dans le ventre. Je t'avoue,
ouais,
que depuis l'incident d'hier du côté de Toronto, je vois ça différemment. Je pensais pas que c'était possible, en fait, un avion qui vire à l'envers. Pour moi, c'est un bateau qui coule, tu comprends?
Ouais.
C'est comme si ça fit pas. Là, je comprends que c'est vraiment une question de trajectoire de l'air qui pogne dans une aile. Il faut vraiment que tu sois à mauvaise place au mauvais moment. Là,
ouais. Mais, ça fait à peu près 25-30 ans que je suis un peu plus alerte sur l'actualité. Puis moi, j'ai jamais entendu parler d'une histoire pareille. Bien sûr qu'on avait entendu parler de crash d'avions qui se démolissaient parce que, je sais pas, moi, on avait une problématique puis on n'a pas été capable d'atterrir sur une piste d'atterrissage puis on s'est crashé. Mais l'avion comme ça qui descend, qui est en approche, qui vole à peu près à 200 km/h, mettons que je vous le mets en kilomètres, c'est à peu près 200-225 km/h, puis qui réussit à atterrir. Et on voit vraiment que ça a fait un gros boom à l'atterrissage. Donc, le train d'atterrissage, les roues arrière ont été les premières à toucher.
Mm.
Puis j'ai l'impression que ça a lâché pour une raison dont j'ignore. Puis peut-être que ça prendra 18 mois avant de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et par la suite, l'avion semble avoir glissé sur le côté, commencé à vouloir tournoyer sur elle-même. Un aile d'avion qui arrache, puis l'essence est là, hein, en passant, soit dit, l'essence est dans les ailes d'avion, puis là, une énorme boule de feu, puis l'avion se retrouve sur le dos, et les passagers se retrouvent attachés, tête en bas, doivent se détacher très rapidement,
mm-hmm,
Puis là, ça doit, c'est plus facile à dire le lendemain. Là. Mais imagine-toi, là, ça fait boum, tu sais pas ce qui se passe. Tu tasses d'un bord, tu vois le feu à l'extérieur. Faut que tu aies le réflexe très rapide de détacher ta ceinture. Naturellement, tu tombes les épaules au plafond. Là,
Mais c'est ça j'allais dire. Je sais pas si j'aurais eu le réflexe de me détacher.
Ben, écoute, il y a le feu dehors. Faut que tu dégages.
Oh oui, je comprends, mais c'est parce que quand l'avion revire de bord, tu comprends-tu que la gravité fait pas sa job? Là,
ouais.
Dans le sens que...
T'es à l'envers.
Ben oui.
T'effets ta boucle, tu tombes sur le bord, sur l'épaule, sur le dos, puis là, t'as les hôtesses de l'air qui disent, je sais pas si ça s'appelle, agente de bord.
Agente de bord, oui.
Qui disent, vite, sortez, laissez tous vos bagages derrière vous. C'est un miracle qu'il n'y ait pas de mort dans cette histoire-là. Oui,
parce
jusqu'à
que c'était 76
maintenant.
Passagers, je pense,
ouais.
Précisément.
Jusqu'à maintenant, il y avait 18 blessés, exact. Dont 3 un peu plus sérieux. Il y avait un enfant aussi qui était là-dedans, puis on ne craint pas pour leur vie. C'est un miracle ce qui s'est passé.
Il y avait un blessé un peu plus grave, mais effectivement, pas de vie en danger. Puis hier, c'était intéressant parce qu'on a parlé avec Danny Gagnon de Chrono Aviation, qui est pilote depuis des années, puis bien, bien passionné. Puis c'est vraiment ça qui nous expliquait que des informations les plus récentes, là, puis là, ce qui est le fun, c'est qu'ils vont pouvoir parler avec le pilote. Là. Malheureusement, dans certaines situations, il faut qu'il parle avec des boîtes noires, là, ce qui n'est pas le plus souhaité. Mais il nous expliquait que c'était vraiment une question de vent. C'est vraiment que d'habitude, les pilotes, puis là, tu me corriges, Yann, tu as plus de connaissances là-dedans que moi, mais les pilotes sont capables de calculer si le vent, les conditions sont correctes pour atterrir.
Ouais.
Puis lui, ben a atterri, il était là, là, il y avait les roues à terre, là, mais il y aurait eu une bourrasque qui fait que c'était une question d'angle avec un aile, puis ça a complètement flippé, tu sais.
Parce qu'on était voir exactement c'était quoi les conditions météorologiques, là, moi puis une gang de tripeurs. C'était autour de 17 nœuds, un vent de travers. Fait que t'avais le vent de travers par rapport à la piste.
Oui.
Là. Normalement, tu atterris le vent d'en face. Par rapport à la piste, le vent est à peu près de 17 nœuds, ce qui représente à peu près 31-32 km/h de mémoire, là, si je fais la conversion rapide. Ça, c'est pas terrible comme vent de travers. Là. J'ai déjà atterri, moi, à Victoriaville, sur leur petit aéroport, puis c'était un vent de travers d'à peu près 60 km/h. Mmh. J'ai eu la peur de ma vie. Mais un 30 km/h à la grosseur de cet avion-là, c'est
y a
pas
peut-être
si
plus,
pire.
Là.
C'est pas si pire que ça. Ce qu'un pilote émérite mentionnait hier sur les ondes d'RDI, c'est tu sais, quand t'arrives, c'est des gros porteurs, hein, puis t'arrives à Pearson, il y a énormément d'avions qui décollent et qui atterrissent, et cet avion-là aurait atterri derrière un autre avion qui venait de passer, un gros avion. Puis ça, quand l'avion arrive, là, bien, avec l'air qui s'accumule en dessous des ailes, parce que pour la portance, ça te prend de l'air en dessous des ailes, bien, il y a comme une genre de... C'est comme si tu faisais rouler le vent.
OK.
Puis ça arrive derrière l'avion, puis ça s'appelle la turbulence de siège. Donc, le vent, il va plus dans le même sens. Il va d'un bord, il va de l'autre, il tourne.
C'est ce qui aurait causé le flip?
Moi, je...
Ça aurait pu? On va parler au conditionnel.
Ça pourrait peut-être être ça. Moi, je ne suis pas un expert en aviation.
Mais c'est intéressant,
j'étais
pilote, par
exemple. J'étais un pilote, puis je sais c'est quoi de la turbulence de siège, parce que quand il y a un gros porteur qui arrive, ben moi, avec mon petit Cessna en arrière, faut que j'attende quelques secondes supplémentaires, parce que si j'essaye d'atterrir derrière ce gros avion-là, c'est clair et net que je vais me retrouver sur le dos comme cet avion-là. Donc, l'expert d'hier disait peut-être de la turbulence de siège, peut-être une bourrasque de vent qui a fait en sorte que l'avion a atterri plus lourdement qu'à son habitude. On a mis d'ailleurs la vidéo sur la page de Boulevard. Là. Ça, c'est une vidéo qui est prise du tarmac. Donc, c'est un pilote d'avion qui est dans son avion et qui décide de filmer au hasard l'avion qui arrive pour atterrir. Puis on le voit très bien, là, que ça tape très fort, qu'ils perdent le train d'atterrissage.
Grosse boucane noire.
Ça commence à glisser sur le côté. Après ça, elle commence à tanguer sur le côté. Puis après ça, elle roule sur elle-même avec la grosse traînée de feu. J'ose pas imaginer ce que les passagers ont pensé à l'intérieur, mais il y a une chose, je sais pas si tu as vu les images qui ont été filmées de l'intérieur, mais il y a un gars qui est à la sortie, qui aide, je sais pas s'il faisait partie du staff, mais lui, là, il aide, mais il a le sourire d'en face parce que là, il est content d'être en vie. Tu sais, on se demandait, mais pourquoi il sourit? C'est parce que tout le monde est là, tout le monde est en vie.
Ça aurait pu être tragique.
Ça
n'a
pas explosé. Ça a été très, très vite. Puis d'ailleurs, vers les alentours de 11h30, là, je vais parler avec Charles-Éric Lamarche, qui est un expert en aviation, qui va nous parler de cet incident-là. Mais le moment de l'atterrissage, c'est le moment le plus sécuritaire de ton vol en prochain.
Mais le pire, c'est que normalement, c'est là que tu dis c'est fait, c'est fini, je suis arrivé.
Une fois que tu as décollé, puis que tu avais assez de puissance pour décoller, t'es rendu à 30 000 pieds dans les airs, tu peux faire un méchant bon bout pour trouver un aéroport qui va t'accueillir. Là.
Ouais.
T'es à 30 000 pieds dans les airs. Mais quand t'atterris, tu sais, t'as de la distance en masse, c'est pas stressant. Je me suis toujours demandé pourquoi les gens applaudissaient. Là. Je trouvais ça un peu colon que les gens applaudissent.
C'est-tu nous autres seulement qui fait ça?
Il y a juste au Québec que ça fait ça.
Parce que dans l'avion, pour aller en République, ça applaudit aller-retour, j'étais morte de rire.
C'est comme si les gens étaient contents d'être vivants.
Oui, on a réussi, on est arrivé en sécurité. Ouais.
Mais c'est ça, applaudissez quand vous êtes rendu à 30 000 pieds dans les airs après le décollage. C'est là où vous êtes le plus safe.
Ouais.
L'atterrissage, c'est tout le temps plus safe que le décollage.
Mais...
parce que si tu manques de puissance au décollage, c'est fini, c'est terminé.
Allez voir les images sur la page Facebook de Boulevard. Honnêtement, c'est impressionnant. Puis vous allez en entendre beaucoup parler parce que justement, on a l'impression que c'est jamais arrivé, du moins pas dans les dernières années, ce type de situation-là aussi près de nous en plus. Là. Fait que non, c'est de l'actualité qui va se poursuivre aujourd'hui définitivement.
Ouais. Pour les prochaines secondes, on va parler d'un possible prédateur sexuel. On va parler au conditionnel de ce qui se serait passé dans les dernières années pour une victime qui était hier au palais de justice de Québec pour que son agresseur puisse subir son procès, son possible agresseur. Puis je lisais les témoignages ce matin de l'histoire. Là. C'est Judith Desmeules qui écrit dans Le Soleil. L'article est toujours disponible. Puis j'en avais froid dans le dos. Je sais que la gang du retour dont tu fais partie, vous avez reçu Judith Desmeules.
Oui.
Puis elle vous a parlé de cette histoire-là. Mais Dominique Laroche, qui était une sommité en sport là, avec ses frères. C'est la famille Laroche au Lac-Beauport, tout le monde les connaît.
Ex-skieur
acrobatique. C'est tout du bon monde, sauf possiblement Dominique Laroche, qui lui était un peu le mouton noir de la famille. C'est atroce quand tu lis l'histoire au complet. Là. Il aurait pris sous son aile une jeune fille de 13 ans qu'il a utilisée pendant beaucoup d'années, de ce qu'on comprend. Là.
Puis, ça a duré 12 ans de mémoire.
Elle semble avoir tombé en amour avec cet homme-là qui lui donnait plein de beaux commentaires à son sujet, qui lui redonnait confiance en elle. Elle avait l'impression qu'enfin, il était accepté parce que visiblement, c'était une petite fille qui avait des problématiques avec sa propre famille. Donc, lui a dit « Viens chez nous ». En accord, j'imagine, avec la dame de la maison, puis les enfants de la famille Laroche, les enfants de Dominique, qui n'ont rien à voir avec ça. Puis,
elle était amie avec les enfants, en fait, de Dominique Laroche.
Elle les gardait.
Ouais.
Elle les gardait parce qu'elle était un petit peu plus vieille qu'eux à l'époque. Et lui s'en serait servi comme outil sexuel. C'est atroce, cette histoire-là. Atroce.
C'est vraiment particulier parce que... puis j'ai envie de vous faire entendre des extraits qui ont été sortis de l'entrevue qu'on a fait hier avec Judith Desmeules, qui est journaliste judiciaire au Soleil, parce que Judith couvre le procès. Puis pour vous donner une idée, bon, hier, on entendait la victime. Aujourd'hui, c'est le contre-interrogatoire de la victime cet après-midi. C'est particulier parce qu'à partir de l'âge de 13 ans, les premières relations sexuelles ont eu lieu. Puis c'est comme si la victime savait que c'était mal, mais en même temps, tu l'as dit, Anne, elle se nourrissait un peu du positif que Dominique Laroche lui aurait donné, des commentaires, de l'amour. Puis c'est une relation qui a grandi de façon... je veux dire, autant positif que négatif dans la tête de la victime parce qu'elle s'attachait à cet homme-là parce que c'est la seule chose qu'elle connaissait de la sexualité.
Première relation à 13 ans, anale.
Oui, c'est complètement fou. Là. Oui, parce que c'était sa préférence.
Elle était couchée sur le ventre, puis lui, relation anale avec la jeune fille. J'ai des frissons.
Oui, puis c'était des relations anales partagées, je vais le dire comme ça, parce que lui avait ce même envie-là. Écoute, j'ai envie de te faire entendre le début, en fait, la victime. Judith nous raconte que la victime raconte au procès avoir eu son premier rapport sexuel justement aux alentours de l'âge de 13 ans. Lui avait 47 ans à ce moment-là.
Puis, éventuellement, tu sais, elle le connaissait pas beaucoup, là, pas plus que ça. Puis, éventuellement, bon, ils se sont rapprochés. Puis, ça commence par des commentaires, des compliments. T'es belle. Puis, après ça, on se rapproche tranquillement, les mains baladeuses. On s'en va en dessous du soutien-gorge. On s'en va dans les culottes. Donc là, elle raconte tout ça.
On parle d'une adolescente ici qui va pas bien, là, tu sais, qui est en période difficile.
Exact. Puis, c'est pas l'âge consentement, si on se rappelle. Puis, à la fin de l'hiver, il y a eu le premier rapport sexuel. C'était sa première fois à elle. Elle n'avait pas d'autre expérience sexuelle. Puis, lui, il se masturbait. Bien, elle raconte qu'il se masturbait devant la télé avec elle pendant que toute la famille était couchée à l'étage. Puis, c'est là que le premier rapport sexuel, ça s'est passé plutôt rapidement. Elle a dit que c'était rapide, qu'après ça, ils se sont levés, sont allés se coucher.
Fait que ça, ça a été la première expérience de la jeune femme. Puis après ça, bien là, ça s'est multiplié. Puis écoute, dans le deuxième extrait que j'ai envie de te présenter, les rapports se sont intensifiés parce que la victime raconte que Laroche la pénétrait avec des objets sexuels non communs. C'est-à-dire qu'il y avait une genre de chambre du sexe, puis il fabriquait ses jouets lui-même. Donc, c'était très artisanal. Je vous laisse entendre.
Ça a commencé avec des jouets là, plus connus. Là,
plus communs.
Plus commun, exact. Puis, éventuellement, il lui parle que lui, il a des préférences sexuelles différentes des autres. Là, rappelez-vous, là, elle connaît rien de la sexualité à l'extérieur de Dominique Laroche. Mm. Il lui dit, ouais, moi, mes préférences, c'est pas commun. Toutes mes conquêtes, ils veulent pas faire ça avec moi, mais toi, tu veux, toi, t'as du guts. C'est ça qu'il disait.
La force d'entrée spéciale.
T'as de l'audace. Mm. Fait que toi, c'est cool, tu veux faire ça avec moi. Mm. On rappelle, elle est une adolescente.
Ouais.
Fait que là, on sort des jeux qu'il lui avait fabriqués, là, on comprend.
Ils avaient fait lui-même?
Oui.
OK.
C'est électrique, c'est ça. Puis si on va dans les préférences, sans aller trop dans les détails, c'était des préférences de pénétration anale.
Il y avait une chambre du sexe,
oui.
Dans sa maison, à sa résidence, où sa femme était là, ses enfants étaient là.
C'était dans son bureau.
Dans le bureau de Dominique Laroche, dans le genre de garde-robe. Il y avait aussi un matelas qui était à terre. C'est ce que Judith Demel mentionne dans son article. Je veux me poser une question, là, puis je veux pas que tu répondes. Il y a personne dans cette résidence-là qui s'est douté de quelque chose pendant toutes ces années-là. Il n'y a personne qui n'a jamais rien vu avec la petite de 13 ans.
Ben.
Moi, je vais te dire ce que je pense.
Écoute.
Si toute cette histoire-là est vraie, j'ai une tendance à croire la victime puisque l'ADN de la victime a été retrouvé sur les jouets de Dominique Laroche. La victime était capable, c'est pas écrit dans l'article de Judith Demel, mais la victime a été capable de décrire ce qu'il y avait dans la fameuse armoire interdite que personne n'avait le droit d'aller, qui était barrée. La victime était capable de décrire exactement tous les jouets qu'il y avait dans cette armoire-là qui était barrée. Il y a des gens qui étaient dans la vie de cet individu-là. Il n'y a personne qui s'est jamais douté de rien. Je pense une chose, il ne devrait pas juste y avoir eu une arrestation dans ce dossier-là.
Ben, écoute,
on lance ça
en l'air, évidemment. Là.
C'est un questionnement.
C'est un questionnement. J'ai envie de te dire...
Tu violes une petite fille de 13 ans à répétition... Puis il n'y a personne
ben,
qui
l'aspect,
se doute de
là,
rien.
Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Puis ça faisait partie de la discussion qu'on avait hier. Ce qui est perturbant, c'est que le processus que la victime mène en ce moment, il est un peu à contre-cœur. C'est-à-dire que il y a l'ange et le démon sur ses épaules. Là, parce qu'il est arrivé un moment dans sa vie aux alentours de 25 ans, en 2020, où elle s'est fait un premier vrai conjoint. Okay? Et ce premier vrai conjoint-là, ben, elle lui a partagé toute cette expérience-là qu'elle a vécue, mais elle ne la partageait pas de façon négative. Elle savait que ce n'était pas correct.
Et ce premier vrai conjoint-là avait une petite fille.
Et à un moment donné, parce que justement, la famille de la victime et bon, la famille de Dominique Laroche étaient souvent en contact, dans un événement, se sont retrouvés tout le monde ensemble et Dominique Laroche aurait lâché un commentaire par rapport à la petite fille du chum de la victime. Si vous me suivez, elle est vraiment belle. Dommage qu'elle n'ait pas 18 ans. Et là, ben, le conjoint de la victime en 2020, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, a appelé la DPJ parce que Dominique Laroche a des enfants. Fait qu'après ma barre, si la victime a vécu ça, qu'est-ce que les enfants ont peut-être vécu? Puis encore une fois, c'est une question lancée dans l'univers, non fondée. Et là, ben, la DPJ a fait des appels à la victime qui est en procès en ce moment avec Dominique Laroche, pour savoir, bon, qu'est-ce qui s'est passé? La victime n'a jamais voulu répondre. Puis là, j'ai envie de te faire entendre un dernier extrait, parce que Judith nous explique qu'est-ce qui fait que la victime a fini par décider de porter plainte puis d'aller en procès, encore une fois, un peu à contre-cœur, parce qu'elle a eu l'impression de l'aimer par la manipulation de Dominique Laroche.
Le conjoint de cette femme-là, à l'époque, n'a pas écouté ses restrictions et a lui-même communiqué avec la DPJ qui a lancé une certaine...
une enquête? Une...
Mais ils ont lancé une enquête, eux, de leur côté, parce que là, il y avait des craintes pour les enfants. Dominique Laroche, dans le contexte. Puis la DPJ a essayé de la rejoindre pour avoir sa version des faits, pour en savoir plus là-dessus. Elle a refusé tous les appels de les rencontrer.
Hey, mon Dieu,
elle, je pense que le processus de réflexion s'est enclenché à ce moment-là pour elle. C'était beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Mm-hmm. Elle était très isolée.
Elle collaborait pas au début. Là.
Non, elle voulait rien savoir. Elle était pas prête.
Mais c'est parce que ta vie est un mensonge aussi, il faut le dire. Tu vis dans une bulle.
C'est qu'on ouais, puis on te la pète. On te la pète solide, tu sais. Fait que c'est ça qu'elle a expliqué. Puis tranquillement, pas vite, elle a vu une vidéo là, d'une femme qui parlait de sa relation de manipuler, puis qu'elle avait vécu ça, elle, de l'adolescence à l'âge adulte. Fait qu'elle s'est vue dans cette femme-là qui a raconté son histoire, qu'elle a vue à la télé. Puis elle a dit « OK, je suis pas tout seule. »
Tu sais, moi, je salue la victime dans ce dossier-là. Je la trouve extrêmement courageuse. Le temps qu'elle a pris ou le temps qu'elle voulait pas prendre pour dénoncer son agresseur, ça lui appartient. T'sais. On fera pas de victime shaming ici, là, ça arrivera jamais dans cette émission-là, vous pouvez en être persuadé. Mais je salue le conjoint de cette jeune femme-là qui, lui, s'est dit « Attends peu, il y a des chances que ce gars-là soit un pédo. » On le sait pas si c'en est un, parce qu'on sait pas s'il va être déclaré coupable par le juge. Mais il y a des chances que ce gars-là soit un pédo, puis ce gars-là a une famille, il y a des enfants, il y a des amis qui sont jeunes aussi, puis je veux pas que ces gens-là vivent la même chose que ma conjointe.
Il a fait la différence.
Il a fait la différence, puis moi, je salue son audace, je salue son front de bœuf d'aller voir la DPJ pour dire « il y aura un pédo à cet endroit-là ». Puis faites enquête, je trouve ça formidable.
Parce que la question ici, c'est la légalité, tu sais, parce qu'elle avait aucunement l'âge de consentir à la base à 13 ans. Et de toute manière, même rendu à 16 ans, il faut un 5 ans, c'est ça la loi. Lui, il avait 47 ans à ce moment-là, fait qu'encore là, illégal jusqu'à 18 ans. Là, j'ai vraiment hâte de voir ce que lui va plaider au final, là. Et dans la mesure où pour l'instant, c'est non coupable, mais je veux dire, c'est quoi la défense?
Oh, il va dire qu'il a commencé à coucher avec quand elle avait 18 ans.
C'est pas mal ce que tout le monde
raison pour laquelle on a retrouvé de l'ADN là-dedans. Mais je me répète, là. Advenant le cas où cette jeune victime-là est agressée à tous les jours, à l'âge de 13, 14, 15, 16, 17, 18, dans cette résidence-là, il n'y a personne qui s'est rendu compte de rien. Je pense qu'il n'aurait pas dû avoir juste une arrestation dans le dossier et j'arrête là. Ça me fâche, ces affaires-là. Ça vient me chercher.
Ouais, ben écoute, on va voir avec les...
dans la maison.
Ouais,
là.
Ouais, je te suis. Et on n'a pas encore ces détails-là, Yann, fait qu'on peut pas...
J'en ai des petites préfables à la maison, puis si un jour il nous arrivait une affaire comme ça ou j'apprenais une affaire comme ça, je deviendrais extrêmement méchant, là.
Avec raison.
C'est pas grave. Hey, on va changer les idées tantôt puisqu'on reçoit Sean O'Neill qui est scaphandrier. Il fait ce métier-là à travers le monde depuis plus de 20 ans. Un gars hyper intéressant. Vous avez des questions pour lui, 88-971-1021, 88-971-1021. Et s'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, vous avez des choses à nous dire par texto. C'est le 88-971-1021. En musique, les Cowboys fringants, l'Amérique pleure sur Boulevard. Ça va faire jaser ça, ce sujet-là, dans les prochaines minutes, puisqu'on a le plaisir de recevoir un invité qui est un scaphandrier de profession, fait ce métier-là à travers le monde. Vous avez des questions pour lui, c'est le 418-971-1021, 418-971-1021 par texto, les amis. J'imagine que vous en aurez beaucoup. Sur la route...
Il y a un accident en ce moment sur Henri IV Sud. Sortie vers Échangeur, boulevard Laurier, c'est partiellement entravé. En fait, c'est une panne de ce côté-là. Il y a un accident aussi sur la 20 Ouest, hauteur kilomètre 316, juste avant la voie de Dessert, là, la voie de droite qui est bloquée. C'est un véhicule lourd qui est en panne, fait que ça prend généralement un peu plus de temps à dégager. Quoi que ce soit, 88-971-1021 texto.
Parfait. Je vous le présente. C'est un scaphandrier depuis plus de 20 ans. Son nom, c'est Sean O'Neill. Salut, Sean.
Salut.
J'ai pas trop scrappé ton nom.
Tu l'as eu parfaitement, merci.
Je l'ai eu parfaitement. Scaphandrier, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, est-ce que tu peux nous déterminer ce que c'est qu'un scaphandrier?
Un scaphandrier, c'est quelqu'un qui fait des travaux sous-marins.
Ouais.
Fait que tous les métiers de la construction, grosso modo, sur Terre sont séparés. Dans l'eau, on les fait toutes.
Toute
fait,
la gang.
Oui, fait que ça peut... c'est beaucoup des travaux sur des structures, des barrages, des quais.
Ça peut être de la soudure?
Ça peut être la soudure. C'est la première chose que tout le monde pense quand ils pensent à la plongée. C'est vraiment une des questions qu'on se fait souvent plus poser. Oui, il y a de la soudure, mais c'est pas juste ça qu'on fait.
Moi, je fais de la plongée sous-marine de façon amateur. Faut prendre des cours pour faire de la plongée sous-marine de façon professionnelle. Le métier de scaphandrier, passez-vous par les mêmes étapes? Donc, on commence amateur, après ça professionnel, puis on continue de monter?
Oui, pour entrer à l'école de plongée professionnelle, tu dois avoir fait au préalable là, ton cours comme PADI, là, c'est un exemple, pour prouver que t'es à l'aise dans l'eau. Là, c'est pour pas que ça pourrait attirer quelqu'un puis qui a jamais été dans l'eau. Puis là, il arrive à l'école, il vient de dépenser beaucoup d'argent, puis finalement, c'est pas pour lui. Fait qu'au moins, oui, un minimum de plongée à faire pour avoir accès à l'école de plongée professionnelle.
Puis ton cours, tu le fais à Rimouski?
Moi, je l'ai faite à Toronto.
Toronto.
Seneca College, par choix. Au Québec, l'école de plongée est à l'Institut maritime de Rimouski. Moi, à mon époque, c'était 2 ans, puis c'était en français. Puis moi, ça a toujours été mon but, c'était de travailler à l'international. Fait que c'était important pour moi d'étudier en anglais, puis d'apprendre les termes en anglais, puis de faire les contacts en anglais pour pouvoir travailler à l'international.
Puis est-ce que c'était très contingenté comme programme? Parce que j'ai été voir le programme dans le secteur de Rimouski. Je trouvais que ça avait l'air d'un programme intéressant. Puis en jaser avec des gens qui travaillent là, qui sont enseignants, effectivement, c'est contingenté. En Ontario, est-ce que ça l'était aussi?
Oui, ça l'était aussi.
Ouais.
Puis c'était aussi géré un peu comme... comme dans l'armée, du fait que, oui, quand tu étais accepté et tu rentrais, on était à peu près une quarantaine au début, mais il y en avait 12 qui finissaient. Il y avait comme un système d'élimination. Fait que le but, c'était de jamais finir dans les 2 derniers moins bons, que ce soit académiquement ou dans les projets sous-marins.
Parce que ça prend énormément de discipline, là, cet emploi-là.
Ben oui, je dirais. Tu vas peut-être rencontrer des scaphandriers qui n'ont pas beaucoup de discipline, là, mais ça existe aussi. Mais oui, moi, règle générale, moi, je me considère comme quelqu'un qui est assez discipliné là, dans la vie. Ouais.
Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Parce que j'ai l'impression que c'est tellement... tu sais, moi, mettons, dans la variété de choses à laquelle j'ai pensé faire quand j'étais plus jeune, scaphandrier, jamais revenu, là.
C'est, en effet, au Québec, on n'est pas beaucoup exposé au métier de la mer. Pourtant, on vit tous sur le bord du fleuve, le deuxième plus gros cours d'eau quasiment au monde.
Ouais.
Mais c'est ça, pour avoir travaillé avec des gens d'autres pays, c'est beaucoup plus naturel, le monde maritime. Souvent, ils ont soit un oncle qui était pêcheur ou un cousin qui est scaphandrier. Ici, c'est pas la première chose que les gens pensent. Puis moi non plus, quand j'étais enfant, je connaissais pas ce métier-là. Je l'ai connu plus tard, à l'âge adulte. J'ai rencontré quelqu'un, là, je pense que j'avais 20 ans environ, puis c'est là que ça a décliqué. Là. Puis je faisais pas de plongée non plus. Non, moi j'ai ça, mon parcours est un peu atypique. Là.
Puis qu'est-ce qui t'attirait vers le métier de plongeur professionnel alors que tu ne l'avais jamais fait? Puis versus qu'est-ce que tu as découvert une fois que tu es devenu plongeur professionnel?
Bien, j'aimerais ça peut-être prendre un petit pas en arrière pour expliquer un peu le processus. C'est que j'ai étudié en gestion hôtelière à la base.
OK.
Moi, tu sais, à l'âge de 14-15 ans, il faut que tu fasses des choix au secondaire qui t'amènent vers quelque chose, vers le cégep. Puis moi, j'ai grandi au Mont-Saint-Anne, un endroit très touristique. J'ai grandi dans une famille anglophone, donc je parlais anglais. Fait que j'avais tout ce que ça prenait pour travailler dans le domaine touristique puis d'hôtellerie, de restauration. J'avais un ami qui avait un restaurant. Son père avait un restaurant. Je travaillais déjà là à l'âge de 14 ans. Fait que je me suis en allé là-dedans parce que c'est ce que je connaissais. J'ai fait mon DEC au Collège Mérici, ici à Québec. Je suis sorti de l'école. Moi, j'étais un gros fan de planche à neige et de vélo de montagne. Je suis allé vivre à Whistler pendant 2 ans. J'ai travaillé dans l'hôtellerie là-bas, au château Whistler. J'aimais ça, mais je me voyais pas faire ça le reste de ma vie. T'sais, déjà à l'âge de 20 ans, je trouvais ça tough là, de travailler tout le temps le soir, fin de semaine. Je voulais plus. Fait que à ce moment-là, j'ai rencontré une fille qui, elle était prête à déménager à Vancouver. Puis moi, j'ai fait le saut. Fait qu'on a déménagé à Vancouver. Puis on s'est ramassé qu'elle, son oncle, il y avait un appartement dans le sous-sol de sa maison, à North Vancouver, un super bel endroit. Puis lui, il était scaphandrier. Fait que ça a été mon premier contact avec le métier. Je trouvais ça cool. C'est l'époque qu'on partageait une ligne téléphonique là, en haut et en bas. on recevait des appels de Singapour, Houston, Dubaï. Il était tout le temps parti. Il avait une belle maison. Il semblait avoir une belle vie, tu sais. Puis là, j'étais curieux. J'ai dit, coudonc, un moment donné, autour de sa piscine, quand il était à la maison, j'ai posé la question carrément. C'est quoi tu fais dans la vie? Ou juste, c'est... Puis là, il m'a expliqué qu'il était scaphandrier.
Ouais.
Puis là, les yeux m'ont ouvert. Puis là, je posais la même question que tu me poses en ce moment. Ouais. Puis là, ça m'a donné le goût.
Ce que tu pensais que c'était versus ce que c'est? Quand t'es dans le fond de l'eau?
Écoute, tu sais pas ce que c'est tant que tu l'as pas essayé. Ouais. C'est impossible.
Tu sais, moi, j'avais eu contact avec Christian Saint-Pierre, qui est un plongeur professionnel. C'est un retraité de l'armée canadienne, Christian. Puis il était venu en entrevue avec nous. Dans ce temps-là, on parlait des enfants qui avaient été pris par la montée des eaux dans une grotte. Je pense que c'était en Thaïlande de mémoire. Et lui, il nous parlait de tout le processus que les Thaïlandais ont fait avec les équipes internationales pour aller sauver les enfants. Puis il me parlait, il me disait ce que c'était que dans le fond de l'eau. Puis j'étais là, crime, ça a donc bien de l'air intéressant. Puis j'ai été faire une première plongée avec lui dans une piscine. Par la suite, j'ai décidé de prendre mon cours. Puis l'univers sous l'eau est complètement différent, là. C'est complètement différent. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut vivre ici. C'est le calme total. C'est pour les gens qui font de l'anxiété ou de l'angoisse, je pense que c'est la meilleure activité que vous pouvez faire, c'est-à-dire dans le fond de l'eau, être concentré sur vos instruments.
Moi, j'aurais peur d'être étouffé puis de m'énayer.
Non, mais t'es concentré sur tes instruments, t'écoutes les petites bulles passer, tu te concentres sur ta respiration. Sérieusement, c'est le calme plat en bas, puis c'est l'univers, c'est comme si t'étais sur la Lune. Tu te dis, hey, je suis un des seuls à voir ce que je suis en train de voir là, c'est la Terre, là.
C'est-tu dangereux, Sean, comme métier? T'es-tu surveillé chaque fois que tu te plonges? Comment ça fonctionne?
C'est une question qu'on se fait souvent poser. C'est un métier que, oui, il y a des dangers. Ce n'est pas dangereux. Je veux mettre ça au clair parce qu'on n'est pas des cowboys, on est des professionnels. Les gens, justement, notre éducation, notre formation est beaucoup, beaucoup axée sur la sécurité. On a beaucoup de redondance. Donc, s'il y a de quoi qui brise, on a toujours un backup. Puis souvent, ce backup-là, il y a un autre backup. Puis on a une équipe derrière nous. Fait que, tu sais, des accidents dans le domaine de la plongée, il y en a peu. C'est la seule différence avec d'autres métiers, c'est que quand il y en a, c'est souvent grave. Mais, tu sais, si on fait les statistiques, là, je serais prêt à dire qu'il y a 10 fois plus d'accidents au niveau des électriciens et des menuisiers que celui des scaphandriers. Ouais. Là.
Est-ce que, parle-moi un peu de ton quotidien de scaphandrier, Sean. Tu passes combien d'heures dans l'eau? Est-ce que tu dors sous l'eau? Est-ce que tu es dans des capsules temporelles qui font en sorte que tu ne peux pas sortir de là puis le lendemain, ben, tu replonges dans l'eau alors que tu étais sous l'eau aussi? Comment ça fonctionne?
Bien, il y a deux types de plongées là, dans le domaine. Là. Il y a la plongée à l'air, donc on respire un mélange d'air.
Ouais.
On saute soit du bateau ou du quai, on s'en va faire notre plongée, puis on revient. Ça peut durer 20 minutes comme ça peut durer 4 heures. Là. Au Québec, la limite, c'est 4 heures. Fait que d'habitude, tu vas faire ta plongée, tu sors, tu dînes, puis là, c'est le tour de quelqu'un d'autre qui va plonger. Ou on est des fois deux personnes à l'eau en même temps. C'est des équipes de 4 au Québec.
Ça, c'est scaphandrier?
Oui, ça, c'est scaphandrie. Okay. Fait que, tu sais, t'as un superviseur, t'as une personne à l'eau, puis t'as deux personnes qui supportent le gars qui est dans l'eau. Puis t'as aussi un qui est attitré que si jamais il se passe de quoi, lui, il peut s'habiller rapidement puis aller le chercher. Puis c'est chacun auto. Fait que c'est comme ça que ça roule. Il y a aussi le côté... Ça fait que ça, c'est la plongée à l'air. Puis il y a le plongée de saturation. Fait que moi, moi c'était mon but, puis c'est ce que je suis devenu. C'est comme la, entre guillemets, la Formule 1 de la plongée. C'est que c'est les profondeurs les plus grandes que l'homme peut accepter. C'est la meilleure technologie. C'est souvent dans des pays très loin.
Ça peut ressembler à quoi, les profondeurs où tu plonges?
Ben écoute, moi, dans ma personnellement, j'ai pas été nécessairement dans des endroits super profonds pour la saturation. Là. Moi, mon plus profond, c'est 480 pieds que j'ai plongé.
Quand même.
Mais j'ai des collègues qui ont plongé jusqu'à 700 pieds. Mais ça, c'est pas comme une compétition, entre guillemets, là. C'est juste le fait que moi, j'ai été sur des contrats qui étaient un peu, tu sais, que j'ai pas tombé sur les gros contrats profonds.
Ouais. C'est quoi l'affaire la plus spéciale que tu as vue sous l'eau?
Les affaires, j'en ai vu... J'ai vu plusieurs bébites que j'avais jamais vues dans les livres, là, que je pourrais même pas t'expliquer. J'ai vu... Je me fais souvent poser la question par rapport aux requins. Ouais. Oui, on envoie des requins à l'occasion, mais non, il n'y a pas de danger, là. les plongeurs, j'ai jamais entendu parler d'un plongeur qui a été attaqué par un requin en tant que tel.
Ils sont plus curieux.
Oui, c'est ça. Ils sont beaucoup, puis sont assez intelligents. Fait que tu n'as pas l'air d'un poisson, là. Fait qu'ils savent qu'ils viennent te voir, mais...
Ton équipement, parce que là, tu nous as amené un peu de ton équipement pour qu'on voit comment ça fonctionne. Puis moi, ce qui m'a marqué, c'est à quel point, puis je l'ai mis en passant sur l'Instagram de Boulevard, vous pouvez aller voir les vidéos, les photos, là. Mais c'est lourd, là. J'aurais pensé que dans l'eau, on aurait essayé d'être un peu plus léger. Pourquoi c'est lourd comme ça? C'est-tu parce que ça t'aide à descendre?
Bien, c'est lourd à la surface, mais c'est balancé pour que dans l'eau, ça flotte, grosso modo. Ça pèse à peu près rien. Oui, notre équipement il est très pesant. On a pour à peu près 125 livres.
Et c'est énorme, là.
Oui, oui. Fait que, tu sais, moi, je suis pas le gars le plus costaud, là. Je pèse 150. Fait que, c'est une grosse partie de mon corps. Surtout quand, à la fin de ta plongée, tu demandais tantôt combien de temps. Tu sais, en saturation, on plonge 6 heures à la fois.
6 heures.
Fait que 6 heures, tu sors de. Faut que tu grimpes à une échelle tout mouillé. Fait que là, tu sais, ton 125 livres, c'est plus l'eau. Fait que là, on est rendu à 150 livres quasiment. Puis t'es fatigué. Ça demande une certaine forme physique. Là. C'est pas fait pour tout le monde.
Ouais. Est-ce que tu t'habilles dans l'eau pour que ça soit moins l'eau?
Non. D'habitude, on est assis ou on est debout, on s'habille. Puis là, le plus vite possible, okay. on est envoyé à
Est-ce
l'eau.
Est-ce que quelqu'un t'aide à mettre le casque ou c'est tout seul?
Oui, non. On est aidé ici au Québec. Les Américains, ils font d'une autre façon, là, une question d'assurance. Là. Ils s'habillent tous par eux-mêmes. Mais partout ailleurs au Canada, là, tantôt, je te disais, on est une équipe.
T'es avec ton binôme.
Les autres, ils t'aident, puis ils s'assurent que tout est beau. Puis toi, on a un processus, un procédé avant de plonger qu'on vérifie tout, puis qu'on prouve qu'en effet, tout fonctionne.
Okay. Je veux revenir au fait que vous plongez très, très, très profondément. Est-ce qu'il y en a qui peuvent dormir sous l'eau, dans des chambres à part?
Oui, c'est ça, la plongée de saturation, grosso modo, si je peux te l'expliquer, c'est que il y a soit une barge ou un bateau qui a des chambres hyperbares à bord. Ils sont dans la cale, normalement, d'un bateau. Ça, c'est des cylindres d'à peu près 7 pieds, je dirais, de diamètre par 15 à 20 pieds de long.
Ouais.
Puis là-dedans, tu as une équipe de plongée qui vivent pendant un mois à la fois. Okay.
Fait que ça, vous êtes dans le fond de l'eau, là?
Non, on est dans le fond d'un bateau.
OK.
Là, je transfère dans une cloche, toujours sous pression. Pour toujours garder la pression de la plongée dans laquelle je m'en vais faire. Fait que, exemple, quand j'étais à 480 pieds,
ouais.
Bon, ben, moi, je rentre dans la capsule, il est à l'air, ferme la porte, il pressurise ça jusqu'à 480 pieds. Ça peut prendre 3-4 heures pour me rendre là. Là, je m'habille, puis là, je transfère dans la cloche. La cloche aussi est à 480 pieds. Là, la cloche, elle descend dans le fond de l'eau jusqu'à 480 pieds.
Exact.
Là, il n'y a plus de différentiel de pression, donc la porte, à l'ouvre, je suis capable d'ouvrir la porte sans qu'il y ait de succion. Puis là, je descends, puis là, je m'en vais faire mon 6 heures à l'eau pour faire les travaux qui est demandé.
C'est complètement fou. Tu pars pour combien de temps la plupart du temps?
Ben, tu vois, la saturation, le guideline, c'est 28 jours. Fait que dans 20, mais tu sais, avec le se rendre, puis après, puis avant, tu sais, d'habitude, c'est des voyages de 6 à 8 semaines qu'on fait. Là.
Fait que tu disais, moi, la restauration, au diable la restauration, je travaille le soir, la fin de semaine, non, je pars 3 semaines.
Oui, mais c'est trippant.
Bye la famille. Comment ça se passe, les relations de couple dans ce merveilleux monde-là? Êtes-vous tous célibataires?
Ben, il y en a, les mariages, il y en a de moins en moins qui durent longtemps.
Ouais.
C'est un domaine là, qui est un peu plus difficile, mais c'est important de trouver un partner là, qui sait dans quoi qu'elle s'embarque. Mm. Moi, ça fait 19 ans que je suis avec ma conjointe.
Wow. Ouais.
On a 2 enfants. Puis on dit souvent que c'est probablement la distance qu'on a eue pendant longtemps qui fait que la flamme est là. Des fois, c'est important de prendre la distance avec son conjoint, conjointe, pour mieux l'apprécier. Je pense que quand ton couple est solide, ça le fait.
Puis quand tu es trop souvent à la maison, dis-tu que ce serait le temps que tu repartais en Argentine?
Ben oui, j'ai eu... C'est drôle que tu dises ça parce que ma blonde, elle m'a déjà dit ça. Elle a dit « Ouais, là, tu commences à être tannant, ça serait le temps que tu ailles travailler. »
Besoin d'un break.
Ouais, ouais.
Tu travailles, Sean, à travers le monde carrément. C'est quoi la différence entre travailler, mettons, dans les glaces au Québec comme ça en plein hiver, puis dans les tropiques, mettons?
Bien, c'est beaucoup plus facile de travailler dans les tropiques, je te dirais. Ouais. Le froid au Québec, l'hiver, il y a beaucoup de challenges. D'un, les glaces, le fleuve, il y a un courant. des courants qui montent puis descendent. Fait que les glaces peuvent carrément te frapper puis te blesser ou peuvent te pousser dans la direction que tu veux pas. Tu as aussi les équipements qui peuvent geler. Puis moi, ça m'est déjà arrivé là, à un moment donné là, que mon équipement a complètement gelé puis j'ai manqué d'air à cause de ça. Fait que c'est un peu plus difficile, un peu plus dangereux, je dirais, travailler dans l'eau froide. Puis c'est moins agréable parce que dès qu'il y a un bris d'équipement, t'as plus d'eau chaude, ben là, tu gèles immédiatement. Puis tu sais, c'est une question
de minutes.
Ah, parce
qu'il vous chaude l'eau chaude dans votre saut, là.
Oui, c'est ça. Nous autres, on a un ombilical, dans le fond, là, un narguilé, c'est le vrai terme, qui nous amène notre air, l'électricité pour la lumière et la caméra qu'on a sur notre casque. Mais on a aussi un tuyau d'eau chaude. Que lui, dans le fond, on a une pompe qui pompe l'eau de où est-ce qu'on plonge, exemple, dans le fleuve. Ça passe dans un brûleur qui a carrément un thermostat. Nous autres, on le met à la température qu'on pense qui va être parfaite. Là, ça redescend vers le plongeur. Puis moi, dans mon soude, j'ai un manifold ici. J'ai des tuyaux dans mes bras puis dans mes jambes avec des petits trous. Ouais. Ça fait carrément, ça me pisse de l'eau dessus, réchauffée. Puis moi, c'est au degré près. Là. Si j'ai chaud, je dis descendre 2 degrés. Si j'ai froid, monte de 2 degrés.
Puis t'es hyper confortable avec cette chaleur-là sous l'eau.
Oui, c'est okay. Ça. Ça vient compenser. Fait que moi, si j'ai trop chaud, je m'ouvre un peu le seau puis je me fais rentrer de l'eau froide. Ou,
c'est quand même pas pire.
Parce que ça dépend aussi si tu travailles très fort ou des fois, si t'es plus en inspection, tu vas moins bouger. Fait que tu vas peut-être avoir un peu plus froid. Fait qu'il faut que tu modules ta température.
Ouais, là, tu vas dire que je suis peut-être un peu trop curieux, mais en même temps, c'est à cause de ça j'ai une job. T'es dans le fond de l'eau pendant 6 heures, c'est ça? 6 heures, tu nous as dit tout à l'heure. Ouais. Bon, des fois, il faut ta toilette. Vous faites comment? Il n'y a pas de toilette en bas?
Hey.
Une bonne question. Je te dirais qu'avec fierté, j'ai probablement un des seuls métiers au monde où est-ce que tu peux te pisser dessus en travaillant, puis c'est accepté dans le domaine.
Il y a toi, il y a vous autres, puis les pilotes automobile.
Oui, apparemment, c'est vrai. Mais on n'a pas de couche, nous autres.
C'est ça.
Oui, mais peut-être, excuse-moi, je vais dans les détails, là, mais là, c'est parce que tu jutes dans ton sauna, dans le fond, là, dans ton bain tourbillon. Là,
oui, oui. Ben, si tu...
Ça vient avec.
Ça vient avec, oui, mais tu as juste à t'ouvrir ton saut puis laisser. Tu sais, c'est pas hermétique. Donc, okay. Le truc, c'est de ne pas le faire 2 minutes avant de sortir parce que ça sent moins
c'est
bon.
C'est plus tannant. Peux-tu nous parler du documentaire Last Breath qui raconte une histoire vraie qui est arrivée à un scaphandrier en 2012? Puis tantôt, je parlais de c'est-tu dangereux? On dirait que moi, après avoir vu ça, j'aurais pogné peur.
Ouais, ben ça, c'est le genre de. Quand on revenait à ce qu'on disait tantôt, là, il y a peu d'accidents, mais ça en a un qui a vraiment fait les manchettes dans notre domaine parce que le gars a survécu avec aucun séquelle, qui est quand même particulier. L'histoire, grosso modo, qui est arrivée pour de vrai, c'est que les bateaux dans lesquels on travaille sont positionnés avec des GPS. Ils s'appellent du Dynamically Position. Fait qu'eux autres, ils gardent leur position en dedans de 1 mètre ou 2 exactement au-dessus de où est-ce qu'on travaille. Parce que c'est sûr que nous autres, on est attachés avec un ombilical après ce bateau-là. Fait que, tu sais, il ne faut pas qu'il parte, là. Sinon, nous autres, on revole. Fait que là, dans ce cas-là, le bateau a complètement perdu tout pouvoir. Toutes les génératrices de backup n'ont pas embarqué. Donc, ils appellent ça un black ship là, dans notre domaine. Le bateau s'est mis à dériver dans la mer pendant 40 minutes. Lorsqu'il dérivait, le plongeur, lui, était, à cause de son ombilical, il était au-dessus d'une structure. Son ombilical a resté coincé. Le bateau a arraché, a carrément sectionné son ombilical. Donc, il s'est ramassé qu'il n'y avait plus d'eau chaude, plus d'air, plus rien. Puis là, je pense que ça s'est passé dans à peu près 450 pieds d'eau. T'as à peu près 3 à 4 minutes d'air de réserve. On a une bouteille d'air de réserve. Dans le cas de la saturation, c'est un mélange d'hélium puis d'oxygène. Il se ramasse, le bateau est parti. C'est la pire catastrophe qu'un scaphandrier peut arriver. Là, tu n'as plus de lumière parce que nous autres, on a une lumière, mais à 480 pieds, tu vois plus rien.
Là. Faut t'entendre une remontée d'urgence.
Non, impossible. Tu ne peux pas sortir, tu vas mourir instantanément. Là. Ouais. Lui, là, dans le fond, il a été très intelligent. Il s'est attaché après la structure avec un mousqueton, puis il a attendu de mourir, grosso modo. Il y avait à peu près 5 minutes de 4 à 5 minutes, mettons, de réserve pour respirer. Puis
après, t'étouffes.
Ben, tu manques d'air, là, tu manques de gaz, là, dans notre cas. Puis là, ça a pris, je pense, 38 minutes là, du moment où est-ce que le bateau a repris la position. Il a réussi à envoyer les plongeurs de secours pour aller chercher. Ils l'ont trouvé, il était inconscient. Ils l'ont ramené à la cloche, qui est quand même très difficile d'amener un gars qui est carrément là, mort, entre guillemets. Ils l'ont rentré dans la cloche, puis il est revenu vivant. De même avec zéro séquelle. Puis ça, c'est quand même, ça s'était jamais vu, mais ça s'explique, parce que là, il a été comme, je pense, c'est 36 ou 38 minutes sans respirer, ce qui, normalement, c'est la mort assurée.
Et le corps a été refroidi très rapidement, j'imagine que ça a un impact.
La théorie, puis tu sais, ça n'a pas été prouvé, mais c'est probablement ça, c'est que vu que c'est dans l'eau très froide, puis il respirait un mélange gazeux qui était très haut en oxygène, son corps était saturé en oxygène, ouais. Donc les cellules ont pu... avoir de l'oxygène assez longtemps, même s'il n'en prenait pas en respirant. Puis le fait que l'eau était froide l'a aidé beaucoup parce que ça a tout... quand tu tombes en hypothermie, toute ton énergie, tout ton corps va vers tes organes pour te garder en vie. Donc, tu sais, son cœur, ses poumons ont resté plus longtemps. La théorie, c'est que si c'est arrivé en eau chaude, il serait mort, c'est sûr.
Sean O'Neill, scaphandrier, pour ceux qui ont déjà fait de la plongée sous-marine, les premières techniques qu'il nous montre, c'est de vider notre masque qui s'est rempli d'eau dans le fond de l'eau. Nous autres, on l'avait fait, si je ne me trompe pas, c'était dans une piscine, puis je ne croyais pas ça possible. Tu es dans le fond de l'eau, puis tu vides ton masque parce qu'il y a trop de l'eau. Donc, tu injectes de l'air dans ton masque. Toi, avec ton casque de scaphandrier, ça pèse à peu près une quarantaine de livres. C'est pas super important dans le fond de l'eau parce que ça doit absolument rien peser, là. Mais comment vous faites pour expulser l'eau qui rentre directement dans votre casque? Vous ne pouvez pas endurer toute l'eau pendant des heures et des heures, là.
Non, nous, on est scellés au cou. Donc, notre tête, techniquement, reste à sec.
Ouais.
Si jamais le seal n'est pas parfait, il y a un petit peu d'eau qui rentre. On a une valve qui nous fait pousser de l'air dans notre casque. Ça crée une pression positive. Ça fait sortir l'eau dans laquelle il est rentré. Là. Fait que le but, c'est de rester la tête au sec.
Okay. Fait que c'est prévu à cet effet. Tu n'as pas besoin d'enlever le masque pour injecter de l'air dedans. Tu as un système qui fait en sorte que tu peux le faire. Parfait. C'est une valve, c'est ça.
Oui.
Là-dessus, tu as un kit de lumière, tu as un kit de soudure aussi. Y a-tu d'autres choses que tu peux avoir sur ton casque?
Ça ressemble à ça. On a une lumière. Fait que plus tu descends profondément, plus tu as besoin de lumière. Tu as une caméra. Nous, dans le fond, on a un superviseur à la surface qui, tout ce que toi, tu vois, il voit au travers de la caméra.
Il vous surveille.
Il nous surveille. Il nous explique. Il nous coach. Il nous guide aussi. Puis c'est lui qui fait le lien entre... Tu sais, nous autres, on fait des travaux mais dans l'eau, mais on a souvent besoin d'outils. On a besoin de la grue. On a besoin... Fait que ça... Lui, c'est le middleman là, qui s'occupe entre le plongeur puis l'équipe de soutien sur Terre. Fait c'est plus facile quand il voit ce que tu fais. Des fois, l'eau, il y a zéro visibilité, puis ça, la caméra, ça ne sert plus à rien, mais c'est là que les bons plongeurs font la différence, ouais. Où est-ce qu'ils peuvent travailler juste au toucher, au feeling. Puis,
vous travaillez à l'aveuglette un peu.
Oui, des fois. Comme dans le fleuve, là, au printemps, là, tu ne vois rien.
À la hauteur de Québec, effectivement, tu ne vois absolument rien.
Ben, je veux dire, l'été, ça se passe bien. C'est à peu près un mètre. Fait que, tu sais, tu vois tes mains. C'est ça que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de voir très loin. Fait que tu vois ton projet. Mais
c'est pas paniquant.
Ben, c'est pas fait pour tout le monde, comme je dis. Moi, ma mère, elle me dit tout le temps, moi, je serais pas capable de faire ça. Je suis claustrophobe. Tu sais, c'est comme n'importe quoi. Plus que tu le fais, plus que ça devient facile. Les premiers contrats, les premiers projets, tu sais... T'as souvent des choses qui t'arrivent pour la première fois, c'est stressant, mais tu passes au travers, puis c'est ce qui fait qu'on est des professionnels.
Tantôt, tu as parlé d'hélium, puis ça a retenu un peu mon attention, parce que là, ce que je comprends, c'est que c'est des gaz que vous respirez. Peux-tu m'expliquer pourquoi, comment? Là, j'imagine que vous parlez bien aigu avec ça.
Oui, ça, c'est ce qui est l'effet secondaire de l'hélium, c'est vraiment la voix, là, que imaginez-vous de respirer un ballon d'hélium, là, tout
tu
le monde
parle comme les chipmunks?
Exactement, oui. Puis plus que c'est profond, plus que la pression en plus sur les cordes vocales fait que t'es extrêmement aigu. Je t'ai envoyé une vidéo, là, pour te donner un exemple.
Est-ce que tu me donnes la permission qu'on écoute un petit bout juste pour entendre aux auditeurs? Je te l'ai envoyé, Yann, là.
C'était la fête de mon garçon, là, de 6 ans, puis moi et mes collègues, on lui a chanté « Bonne fête ».
Hey, les conversations doivent pas être sérieuses.
Fait que c'est « Happy birthday, Tom ». Je sais pas si vous avez compris, là.
Oui.
Donc, mon petit gars Tom, là, qui a 6 ans. Puis, mais ça, en fait, c'est drôle parce que c'est quand même assez grave, ça, comme voix de l'hélium. Là, j'attends... Pour faire des vidéos, j'ai fait quand on est en décompression, quand on est moins profond, donc c'est un peu plus grave. Plus que tu descends, plus que tu as une quantité d'hélium, puis plus que c'est aigu. Puis c'est particulier parce que j'ai déjà rencontré des gens, moi, que je les avais jamais vus à l'extérieur. On s'est toujours parlé en saturation. Puis la première fois que tu entends la vraie voix de quelqu'un, ça fait tout le temps comme
spécial.
Tu sais pas, il y en avait un même que j'étais sûr que c'était un Américain, mais finalement, il était Australien. Parce que les accents sont un peu, sont adoucis avec l'hélium. Fait que oui, c'est un challenge de plus. Puis le côté hélium, c'est grosso modo, là, la physique derrière ça, c'est que l'azote qu'on a dans l'air, il y a un mélange d'oxygène et d'azote. Là. L'azote, sous pression, en profondeur, devient narcotique. Il y a un problème. Est-ce que l'ivresse des profondeurs, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, ça fait qu'on est un peu mêlé. C'est comme l'équivalent de prendre une coupe d'IPA. Fait que ça, ils ont découvert un gaz qui était inerte, qui est l'hélium, qui prenait la place de l'azote puis qui n'avait pas les problèmes de l'ivresse de profondeur. Fait que nous, en saturation, vu qu'on plonge très profond, on prend un mélange d'oxygène, que c'est l'oxygène qui est important pour la vie, puis ils remplissent le reste du gap avec le gaz qui est l'hélium.
Ça, à long terme, vous n'aurez jamais de problème avec ce qu'on vous donne comme air dans le fond de l'eau?
Ben écoute, ça fait depuis les années 60 que ça existe. Puis, ouais. Tu sais, moi, j'ai travaillé avec des vieux de la vieille, puis ils ont l'air normal.
L'air!
Toi, tu trouves qu'ils ont l'air normal?
C'est ça. Non, mais c'est une question que beaucoup de vieux se sont posées, parce qu'il y a eu des pionniers avant moi, là, tu sais. Mais tu sais, il y en a qui ont 75, 80 ans aujourd'hui, puis ils n'ont pas de maladie de plus que les gens normaux de leur âge.
Okay.
Là,
fait que, c'est toujours rassurant, ça. Là.
Ouais. Puis même que je dirais qu'il y a des gens qui prônent l'oxygénothérapie. Fait que l'oxygène sous pression peut avoir des bienfaits qui sont peut-être bons pour le corps là, à long terme.
Je regardais ton équipement que tu nous montrais tout à l'heure. Moi, j'ai été faire un tour où la péninsule de Bruce.
Ouais,
puis il y a des pionniers qui faisaient du scaphandrier à l'époque. Là, puis j'ai regardé leurs premières installations pour faire du scaphandrier. Audrey, le gars était avec tout l'équipement de scaphandrier dans le fond de l'eau. C'était rudimentaire, là, ça ressemblait pas à ça. C'était tout à des costumes de cuir. Là.
Comme Tintin.
Ouais, exact, comme Tintin. Puis tu avais deux gars en haut, dans une chaloupe, qui étaient avec la pompe pour envoyer de l'air en bas.
Oh, Seigneur.
C'était...
Faut que t'aies confiance, hein? C'est...
Ben,
oui.
Oui, parce que le gars, il prend une pause, là, t'as plus d'air.
Tu manques de...
Mais c'était rudimentaire. Tu sais, ce métier-là, faut que tu fasses confiance à tes binômes puis aux gens qui s'occupent de toi pour ta sécurité. Là.
Ben, c'est une des choses que j'aime beaucoup de l'industrie, c'est l'espèce de...
Partnership.
Ouais, le bromance qui se crée entre les gens avec qui tu travailles. Tu sais, je pense que c'est les policiers, ils vivent un peu... Tu sais, quand tu vis des moments difficiles ou des moments que tu sais que l'autre, il est là pour toi, il se crée un certain lien. Puis moi, c'est une des choses que j'aime le plus de mon industrie, c'est l'espèce de... les gens que tu rencontres, puis tu passes beaucoup, beaucoup de temps avec ces gens-là, puis il y a comme une connexion, là, tu sais, on se comprend parce qu'on est scaphandrier. Là,
quand on est scaphandrier depuis plus de 20 ans, là, ça peut ressembler à quoi, en moyenne, les salaires pour les scaphandriers, pour les gars qui commencent à Québec versus les gars qui sont là depuis 40 ans?
Bien, au Québec, on est régi par la CCQ. Donc, les scaphandriers, ils ont un salaire qui est disponible sur Internet, là, qui c'est environ 47 $ de l'heure. Puis là, après 9 heures, c'est en double. Les fins de semaine, c'est en double. Un scaphandrier au Québec peut faire environ 100 000, mettons, dans son année. Dans l'offshore, comme je disais, tu peux être aussi un plongeur à l'air ou un plongeur de saturation. Fait que plongeur à l'air offshore, tu fais peut-être entre 100 000 et 150 000. Puis quand tu fais de la saturation de façon constante, là, tu es payé à la journée en saturation. C'est entre 2 000 et 3 000 par jour que tu es payé. Fait que c'est des salaires de 200 à 300 000 par année.
Fait que c'est ce qui vous permet d'avoir une qualité de vie parce que vous n'êtes pas toujours en train de travailler. Tu disais tout à l'heure, tu pars des fois un mois, même plus. Fait que quand tu reviens ici, tu peux ne pas travailler pendant quelques semaines sans aucun problème puis passer du temps avec ta famille et tes enfants jusqu'à temps que ta blonde te dise « ce serait le temps que tu retournes
». Ben oui, c'est le lifestyle que j'aime. Moi, j'ai fait ça toute ma vie. C'est que j'ai travaillé fort intensément pendant une période de temps puis après ça, être en congé puis... Le problème avec la jeunesse aujourd'hui, c'est que les gens ont soit du temps ou soit de l'argent. Tu n'as jamais les deux parce que si tu travailles tout le temps, tu as beaucoup d'argent, mais tu n'as pas le temps pour le dépenser. Moi, je trouvais que j'ai une belle balance parce que oui, quand je travaille, je fais des sous. Puis quand je suis en congé, ben là, je peux vraiment chiller puis faire des projets que j'aime puis que j'ai le goût de faire. Puis j'ai Je ne suis pas pris chez nous avec Ponsen.
Ton voyage professionnel le plus marquant, y a-t-il des anecdotes que tu pourrais nous raconter? Ou...
Écoute, j'en ai tellement. Là, justement, je pensais à ça en prévision de venir vous voir. Là, j'ai fait des pays assez particuliers là, comme l'Afrique. Là, le Nigeria, c'est une des places qui est assez capotée. L'Inde aussi. T'sais, des anecdotes, j'en ai des pas pires en Afrique. Là, au Nigeria, c'est un endroit qui est très dangereux du point de vue... le pays est très pauvre, puis il y a comme une revendication contre les compagnies pétrolières parce que c'est un des pays les plus riches en pétrole, mais l'argent se rend pas au peuple. Mm. Fait que là, le peuple, ils sont fâchés, fait qu'ils prennent des gens, ils kidnappent des employés du pétrole. Toi, quand tu arrives là-bas, tu es une cible parce que t'es comme de l'argent pour eux autres. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup... moi, la première fois que je suis allé là, j'avais une photo d'un gars qui... de la personne qui allait venir me chercher. Parce que un des trucs qu'ils font, c'est qu'ils attendent à l'aéroport puis ils mettent des pancartes des grosses compagnies. Fait qu'ils sont sûrs qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui voit la pancarte. Ah, McDermott, mettons, une compagnie de pétrole. Ah, fait que t'embarques avec eux autres dans le taxi puis t'amènes dans la jungle puis ils demandent 1 million de rançon au pays du Canada.
T'sais. Mais ça, quand ta blonde veut t'envoyer parce qu'elle trouve que tu vaux plus cher, tu dis au moins je vaux 1 million au Nigeria.
Ouais, c'est ça. Mais elle a dit, moi je paierais pas pour ça.
Gardez-les.
Non, mais fait que là, moi j'avais une photo d'un gars. Puis là, j'avais même un code, je trouvais ça drôle parce que le code, je m'en rappellerai toujours, c'est que là, je vois la photo du gars à l'aéroport. Puis là, j'ai dit, les bananes du Nigeria sont bonnes. Puis lui, il fallait qu'il me réponde, oui, mais celles du Canada sont meilleures. Fait que là, je m'assurais que j'étais en effet avec la vraie personne, tu sais, c'était pas un bandit. Fait que j'étais embarqué avec lui. Puis là, il y a des gardes du corps avec lui. Fait qu'on est, on est à vrai 5, ils sont tous habillés en des espèces de super-héros des années 80. Là, on embarque dans un suburban noir comme un premier ministre ou un président.
Voyons, j'espère que t'en as profité de faire un selfie dans le genre avec les gars.
J'avais même pas de cellulaire dans ce temps-là. J'ai peur de me le faire voler, tu sais, en Afrique. Mais là, on part. Là, je me rends compte qu'il y a carrément un Toyota Tacoma en arrière de nous autres avec une mitraillette sur pied dans la boîte en arrière avec des gars qui sont prêts à shooter du monde. Là, on a des sirènes. Là, j'étais là, voyons, tu sais, comment attirer l'attention pour rien. Puis là, on est descendu à Lagos. C'était à peu près 2 heures de route pour te rendre jusqu'au bateau où j'allais travailler. Puis en fait, je savais pas, on s'en allait à l'hôtel. Tu sais, puis on traversait les terres pleines. On klaxonnait. C'était n'importe quoi. J'ai vu du monde, tu sais, comme... J'ai jamais été dans une guerre, là, mais c'était la pauvreté totale. J'ai vu du monde là, coucher par terre, en tout cas. Fait que juste ça a été quelque chose. Puis là, tu arrives à l'hôtel, puis là, ça appartient à la compagnie pétrolière, tu sais. Puis là, c'est un compound avec des murs de 20 pieds. Puis là, tu te fais regarder avec, carrément, tu sais, les bâtons avec des miroirs pour s'assurer que tu n'as pas une bombe en dessous de l'auto, tu sais. Puis là, tu rentres là. Puis là, c'est un resort 5 étoiles, juste pour les employés.
C'est un autre univers.
Là, c'est comme... Là, tu te sens mal parce que là j'étais au bar, je prenais une Guinness avec des crevettes, tu sais, sauce super
dehors,
bonne.
T'as du monde.
Puis là, je venais de vivre la pauvreté totale. Puis là, c'est là que tu vois justement les inconsistances avec le pays, tu sais. Puis... Mais ça, c'est... Il y a des problèmes de pirates, il y en a beaucoup. Là, finalement, j'arrive à bord, tu sais, après 5 heures de bateau pour me rendre à la barge sur laquelle je travaillais. Puis là, j'arrive... Puis là, je vois qu'il y a des plaques d'acier tout le tour du pont où est-ce que le capitaine y est. Puis il y a des trous de balles, genre des centaines de trous, là, tu vois très bien. Puis c'est de l'acier d'un pouce. Je pensais pas que des balles de fusil, ça va traverser de l'acier d'un pouce. Puis là, je vais poser la question au capitaine, c'est parce qu'ils te font faire le tour. Je dis, c'est quoi qui se passe? Il dit, ils te l'ont pas dit. Il dit, c'est pour ça que tu es ici. De quoi tu parles? Ben, il y a 5 plongeurs qui se sont fait prendre en otage. Ils sont encore dans la jungle, fait qu'il nous manque des gars. C'est pour ça qu'ils t'ont appelé.
Oh, Seigneur!
J'étais là.
Rassurant.
Hey, bon
lundi!
Le gars d'un bureau, il a pas pris la peine de me dire ça dans quoi je m'embarquais. Je capotais. J'étais là, mais voyons donc. Là, il y avait carrément des procédures que si jamais on se fait attaquer par les pirates, quoi faire? Parce que si t'es dans l'eau, là, il n'y avait pas assez de temps pour sortir le scaphandrier de l'eau puis aller te sauver parce qu'il y avait un système où est-ce qu'on tous les employés allaient dans la cuisine, puis ils fermaient la porte de façon hermétique pour être comme embarré, pour être sécuritaire. Mais le plongeur, lui, restait à l'eau. Puis, tu sais, too bad, là.
Le... Bon, doux seigneur. Ouais. Moi, les pirates dans ma tête, c'est dans les films, là.
Mais,
c'est
ouais,
capoté.
Ça, fait qu'à bord, on avait des mercenaires, là, Blackwater, je sais pas si vous connaissez ça. C'est une ouais. armée privée là, de la Virginie. On avait 20 gars, des ex-militaires américains, qu'eux autres, il y avait carrément des bunkers. Puis on a vu du monde qui s'approchait, ils tiraient dessus, ta-ta-ta-ta. On avait des bateaux de 200-300 forces qui faisaient le tour de notre barge. Parce que nous autres, la barge, ça bouge pas, là. Puis qui repoussait, puis qui tirait dessus. Puis,
t'étais là combien de temps?
J'étais allé deux fois.
Et mon Dieu, la deuxième fois, pris sa leçon, là.
La deuxième fois, c'est drôle, parce que la deuxième fois, je reçois un email, tu sais, pour... ça te tente, c'était la saison d'après. Puis là, il y avait une augmentation de salaire, tu sais, de quasiment 70 %. Puis là, j'étais là, c'est-tu bon? C'est bon signe ou c'est pas bon signe?
Mais moi, dans ma tête, c'est pas bon signe.
Non, c'est ça. J'avais 22 ans dans le temps.
Un peu plus téméraire.
Ouais, l'argent m'intéressait. Fait que j'ai sauté, puis je l'ai fait. Fait que ça a été payant, mais ça a été aussi des histoires, le fun à raconter plus tard. Là,
wow.
Il m'est rien arrivé. Là, ouais.
Sean O'Neill, scaphandrier depuis plus de 20 ans. T'es maintenant rendu dans la quarantaine. Les scaphandriers, en moyenne, prennent leur retraite vers quel âge?
Écoute, de plus en plus vieux, je dirais. C'est un métier qui est difficile physiquement, mais si tu t'occupes de ton corps puis tu fais attention, il y a moyen de travailler jusque dans la soixantaine.
Ouais. Tu es un gars qui s'entraîne régulièrement?
Moi, oui. Oui. Ouais. Moi, j'aime ça. C'est juste important pour moi. Je fais pas ça pour le look ou rien. C'est je me sens bien quand je suis en forme. Puis ça me permet aussi d'être plus performant dans l'eau.
Tu vises quel âge pour la retraite, toi?
Moi, j'aimerais ça travailler dans le domaine jusqu'à dans la soixantaine. C'est sûr que dans la soixantaine, j'aimerais ça être plus du côté superviseur et moins plongé. Ou peut-être, j'ai le goût de rester dans ce domaine-là toute ma vie. Là,
Madame à la maison, vas-tu t'endurer à la retraite?
Elle n'aura pas le choix.
Hey, tu vas trouver ça difficile, là!
Ouais, ben, j'ai vécu ça avec mes parents. Mon père, il travaillait à l'extérieur. Puis quand il a pris sa retraite, ça a été un peu plus tough là, à la maison.
Là, c'est où ta prochaine destination, là, sais-tu?
Ben là, cet hiver, je prends ça off, je fais du ski. Au printemps, là, je vais recommencer avec une compagnie locale à Québec, Expertech. Là, je les salue en passant, une excellente compagnie de la région. Puis j'ai un contrat cet été à Terre-Neuve.
Okay.
Moi, depuis quelques années, je prends moins de contrats loin à l'extérieur. Je choisis ceux qui sont un peu plus payants, un peu plus agréables.
Avec les enfants aussi.
C'est ça, j'ai des enfants. C'est vraiment un choix personnel d'être plus proche de la maison. Fait que, mais où je vais toujours continuer à faire des contrats à l'extérieur. Puis là, cet été, il y a un gros contrat qui se passe à Terre-Neuve, à Saint-Jean-Terre-Neuve.
Sean O'Neill, ça a été un plaisir de te rencontrer. Je rappelle aux auditeurs qui se sont joints à nous dans les dernières minutes que l'entrevue au grand complet avec notre scaphandrier de profession va être disponible dans les prochaines heures sur le site blvd.fm. Puis, ça n'a pas été super la radio?
Ça a très bien été. C'était stressant, mais je suis content de l'avoir fait.
On a-tu... Ben, t'es stressant. Il scaphandrier, puis il stressait à venir.
Ben oui, c'est ça, voyons donc. On me semble qu'on est du bon monde.
Ben oui. Un gros merci d'être passé. Nous, on s'arrête. 418-971-101, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, là, les amis, merci de nous en informer. On vient.
Marceau, le soir. Le show. Marceau et Audrey Pinchot.
11h21. Allez, va être de la classique boulevard, les amis. Tu vas-tu être là, Audrey?
Oui, c'est sûr que je vais être là. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais être imparable.
Tu joues pas au hockey avec nous autres?
Tu veux pas, Yann, que je sois sur la glace?
Mais d'après moi, tu pourrais pas être pire que Max.
Non, je serais pas sur la glace. Je vais peut-être... il y a deux ans, j'avais fait l'hymne. Là, je vais être dans l'estrade, c'est sûr, avec notre monde.
Ouais.
Je vais vous regarder, je vais vous encourager.
Ça va être le 20 mars, là, fait que pour tous ceux qui veulent s'entraîner pour la classique boulevard, ça va être le temps. Moi, j'ai pas encore joué sur glace cette année.
Okay.
Je me suis démanché, je ne sais pas si je l'ai dit en nombre, mais je me suis démanché une épaule, moi, il y a à peu près 3 semaines. Puis, j'ai eu peur de ma vie, je pensais que je vais rester de même jusqu'à la fin de mes jours.
Petit.
Tu me voyais là, à quel point je filais pas. Là.
Mais là, ton épaule va mieux.
J'ai
joué au
hockey hier.
Ça va bien. Là. Tu vas être prêt pour le 20. Puis, si jamais vous avez l'intérêt en passant d'affronter les essoufflés de boulevard.
C'est la Winter Class. On s'appelle les essoufflés.
Ben oui, ça fait 2 ans qu'on s'appelle de même. D'ailleurs, c'est les auditeurs qui ont voté pour ce nom-là.
J'avais oublié ce bout-là.
Inscrivez-vous avec votre équipe sur le blvd.fm. C'est toujours des soirées qui sont complètement capotées.
Oui, l'année passée, les bouts en feu étaient peut-être un peu trop forts.
Il était très fort, il paraît.
Mais si on n'avait pas eu Max dans l'équipe, peut-être qu'on aurait eu une meilleure performance. Là.
C'est ce que beaucoup disent, hein, que Max se fait plus saler la bouche que les gens.
J'entendais Max chialer après ton conjoint qui était notre arbitre l'année passée. Il a fait une super de belle
merci,
job.
Merci, Yann. Je n'étais pas là, je sais pas.
À un moment donné, Max dit qu'il s'est fait plaquer, mais c'est parce qu'il est rentré dans un joueur. Max ne regardait pas où il allait. Puis il est rentré dans un gars, il tombait à terre, puis il avait l'impression que ton chum allait donner une punition à l'autre équipe pour
mais
nous favoriser. Il l'a pas fait, puis j'aurais pas donné la punition non plus.
Bon, je suis rassuré de savoir ça.
Alors, regarde où tu vas, Larouche, regarde où tu vas.
C'est toujours cocasse.
All right, tu veux me parler de Last Breath?
Oui, hey, on a jasé un peu tantôt dans l'entrevue avec Sean O'Neill, qui est scaphandrier. D'ailleurs, je suis en train de sortir ça là sur le BLVD.fm, ce sera sur YouTube aussi. Il nous a parlé d'un documentaire qui s'appelle Last Breath, qui raconte une histoire vraie qui est arrivée en 2012 à Chris Lemons, un gars qui est resté pris dans l'eau parce que le bateau a décroché son... moi, j'ai cordon ombilical dans la tête, là, c'est pas le bon terme. Là. Comment il appelle ça? Ombilical, c'est un...
Moi, j'appellerais ça un tuyau.
Un tuyau qui te relie au bateau, tiens, pour t'oxygéner, puis te réchauffer, puis tout. Le gars aurait dû mourir. Il est resté 38 minutes dans l'eau de même avec rien pantoute. Mm-hmm. Mais le froid, puis l'oxygène dans son corps a fait en sorte qu'il était capable de survivre, bref. Tout ça pour dire qu'il paraît que c'est écœurant comme documentaire. C'est sur Apple TV en ce moment. Et il y a un film à venir au cinéma. Ils vont le transformer en film, cette histoire-là. Fait que si jamais ça vous parle, vous êtes plusieurs à l'avoir demandé sur le Twitch, entre autres.
Ça va être très cool. Puis dans le documentaire, c'est Woody Harrelson qui est là.
OK.
Aussi. C'est très intéressant. Vous apprenez plein de choses. Je t'assure de passer une belle journée. On t'écoute avec Denis tantôt et Véro vers les alentours de 14h.
On se reparle demain.
Pascal CV s'en vient dans les prochaines minutes. D'ici là, on vous pousse du caravane entre ma tête et mon cœur sur Boulevard. Merci d'être là.